style. Et donc la surévaluation de la monnaie américaine provoquerait, serait responsable du déficit commercial. C'est la séquence que je conteste, mais qui est derrière ce programme. Donc derrière les allers-retours, les mouvements erratiques, on a quand même l'impression, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de Trump, qu'il y a, il y a quand même un plan.
Et pourquoi il a laissé 90 jours de sursis à cette dizaine d'États, excepté la Chine ?
Parce qu'il s'est rendu compte, il a eu peur. La semaine dernière, il y a eu un événement quand même très important pour lui et pour les Américains. C'est que le reste du monde commençait à vendre les titres en dollars qu'ils avaient achetés. C'est-à-dire les Japonais, les Chinois, les Européens, le Golfe, vendaient des bons du Trésor américain, vendaient des obligations du Trésor américain. Ça fait monter les taux d'intérêt aux États-Unis, premier inconvénient du côté américain. Et puis ça fait un peu baisser le dollar aussi. Alors ça, c'est pas un inconvénient pour les Américains, puisque Trump, il veut faire baisser le dollar.
C'est ce qu'il cherche, oui.
Mais c'est, tout ça est assez peu cohérent, parce que je veux dire, si véritablement ils réussissent à faire baisser le dollar, d'abord, c'est pas bon pour nous, ça veut dire faire monter l'euro, c'est pas bon pour notre compétitivité dans la zone euro. Et deuxièmement, il peut y avoir un moment où le reste du monde, qui finance quand même le déficit commercial américain par des entrées de capitaux, le reste du monde peut perdre confiance dans la devise américaine. On n'en est pas là. Mais je veux dire, à force de jouer cette dynamique, je trouve qu'il joue un peu avec le feu.
Avec des signaux qui peuvent être inquiétants. Derrière tout cela, il y a aussi cette bataille entre le dollar en face et le yuan aussi de l'autre côté. C'est l'un des objets de ce bras de fer entre les États-Unis et la Chine.
Si vous voulez, ce qu'on appelle la dédollarisation.
Oui, voilà.
C'est-à-dire la réduction du rôle du dollar dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, vous regardez les chiffres, la dédollarisation, c'est plus une velléité politique de la part des pays du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, qu'une véritable réalité économique. C'est-à-dire, le dollar reste la monnaie de réserve dominante et de loin. Numéro 2, c'est l'euro. Et puis ensuite, il y a le yuan chinois, mais veut dire qu'il y a des parts de marché relativement modiques parce qu'il n'est pas pleinement convertible. Donc, les Chinois freinent quand même, d'une certaine façon, l'internationalisation de leur devise. Bon, mais dans 10 ans, je serai peut-être pas là, sans doute pas là pour le voir, mais dans 10 ans, je suis persuadé que le monde sera organisé autour de 3 devises, le dollar, l'euro qui restera, malgré les difficultés qu'on peut traverser en Europe, et le yuan chinois. Aujourd'hui, la finance mondiale s'organise autour de 2 devises, ce que j'appelle un duopole, dollar-euro, avec un dollar qui reste dominant. Donc, la dédollarisation, c'est plus une perspective que la réalité d'aujourd'hui, mais Trump aurait tort de ne pas prendre ça au sérieux. Et il ne faut pas jouer avec les taux de change, parce que ça peut avoir des conséquences aussi sur le rôle du dollar.
Ça abîme une image. C'est
un problème de confiance. La monnaie, c'est la confiance. Et la confiance, ça peut se perdre assez vite. Plus vite que ça ne se gagne.
Xi Jinping, par exemple, en ce moment, le président chinois est en tournée en Asie du Sud-Est, accueilli parfois en fanfare. On l'a vu en Malaisie, au Vietnam, le président chinois. Mais il fait du soft power aussi. C'est un peu l'objet de ce déplacement.
Vous avez dans ce qu'on appelle le Sud global, concept un peu ambigu, mais on voit bien ce que ça recouvre. Vous avez les BRICS, dont la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud, et puis ça s'est élargi à d'autres pays. Je pense que le Sud est en train de s'organiser, et c'est comme ça que j'interprète cette visite du président chinois dans des pays du voisinage pour lui. Solidarité aussi vis-à-vis des initiatives unilatérales américaines. Dans ce bras de fer entre la Chine et les États-Unis, clairement, les Chinois cherchent des alliés près de chez eux. Et vous avez vu qu'il y avait un projet, c'est un projet de zone de libre-échange entre la Corée du Sud, le Japon,
la Chine. Aussi, oui.
Voilà, bon, tout ça, c'est des projets, c'est pas la réalité encore, mais il y a clairement une volonté de s'organiser face aux initiatives de M. Trump.
Alors, je le disais, c'est pas seulement cette guerre en ce moment, c'est pas seulement une guerre de marchandises, une affaire de containers, c'est une affaire de devises. C'est l'objet de votre livre, La guerre des monnaies, paru aux éditions Odile Jacob. Vous expliquez qu'il y a en vérité 3 types de guerres.
Oui, il y a 3 guerres des monnaies Et à mon avis, elles ont lieu en ce moment toutes les trois. Il y a les guerres d'échange, c'est-à-dire chaque pays essaye de faire baisser sa devise pour améliorer sa compétitivité. Les Chinois le font depuis des années, les Américains reprochent aux Chinois de le faire, mais M. Trump veut faire baisser le dollar. Donc, il est clairement dans cette logique de guerre d'échange. Il y a la guerre entre les monnaies de réserve, avec, au fond, la volonté de prendre le relais du dollar, mais ça prendra des années ou des décennies. C'est la guerre des monnaies de réserve. Je parlais du yuan, qui a un avenir, à mon avis, devant lui. Le dollar reste dominant et l'euro fait à peu près 20% de part de marché au plan mondial. Le dollar, pas loin de 60%. Vous voyez, je parle de part de marché, pas de taux de change. Et puis, la troisième, c'est la guerre entre des monnaies privées, les cryptos. Le principal crypto, c'est le bitcoin. Et puis, les monnaies publiques. C'est-à-dire que les banques centrales ont réagi face à l'essor des cryptos en développant, elles sont en train de préparer leur monnaie numérique. La Banque Centrale Européenne prépare l'arrivée de l'euro numérique. La Fed est censée préparer l'arrivée du dollar numérique, même si M. Trump a pris plutôt position contre cette initiative, etc. Donc, vous avez des guerres entre monnaie privée, monnaie publique, avec des enjeux de quoi ? Des enjeux de pouvoir, des enjeux de souveraineté monétaire, des enjeux de contrôle. C'est ça qui se joue.
Christian de Boissieu, vous développez aussi longuement l'histoire de l'or. Je voudrais qu'on termine par ça. Il nous reste quelques minutes. L'once bat des records. Cette nuit, j'ai regardé 3 275 $ l'once. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui pousse à se replier sur une valeur qui n'apporte finalement aucun rendement?
L'or, effectivement, a été démonétisé du système monétaire international par M. Nixon le 15 août 1971. Mais il reste important. C'est-à-dire les banques centrales achètent de l'or parce que ça reste une valeur refuge, y compris pour les banques centrales. Bon, et puis il n'y a pas que les banques centrales, il y a les investisseurs privés, l'or sert de valeur refuge, et en période d'inflation, l'inflation a baissé, mais elle peut repartir avec l'initiative américaine, l'or est une bonne protection contre l'inflation. Donc voilà les raisons pour lesquelles, sur ce marché relativement étroit, le gonflement de la demande provoque une augmentation du prix.
Et les particuliers aussi
Les privés,
vers l'or.
Il y a l'usage privé de l'or, la dentisterie, la joaillerie, etc., mais vous avez les particuliers, le Bitcoin est un peu retombé par rapport à ses sommets du mois de décembre, mais clairement, l'or aujourd'hui est une des valeurs refuges.
Merci beaucoup Christian de Boissieu d'être venu ce matin sur Radio Classique, professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Vous publiez donc La nouvelle guerre des monnaies, coécrit avec votre confrère Marc Schwartz, c'est paru aux éditions Odile Jacob. Excellente journée à vous.
Merci.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Augustin.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Ce matin, les journaux reviennent sur la lutte qui oppose Donald Trump à l'université d'Harvard.
Et le président américain a menacé hier de lui retirer ses importants avantages fiscaux. Annonce qui complète celle de la suppression de plus de 2 milliards de dollars de subventions. Car Harvard a refusé de plier face aux demandes de la nouvelle administration. Des demandes résumées dans le Figaro. Réforme en profondeur de la direction de l'université, audit du corps professoral, du personnel et des étudiants par une commission extérieure pour assurer la diversité des points de vue, promesse de refuser l'admission de candidats étrangers hostiles aux valeurs américaines et à la Constitution, enfin réforme des programmes présentant des cas flagrants d'antisémitisme ou d'autres préjugés, bref, une mise sous tutelle qui ne dit pas son nom. L'opinion synthétise, si l'administration Trump mène une telle croisade contre les grandes universités, c'est parce qu'elle y observe ce qu'elle considère des dérives depuis une dizaine d'années. De symboles d'excellence, elles sont devenues à ses yeux des lieux de pensée uniques où l'on enseigne exclusivement des théories sur le genre et des discours anticolonialistes jugés anti-américains et anti-occidentaux. Des facultés vues comme des usines qui fabriquent à la chaîne des ennemis démocrates. Le Figaro rappelle que l'université d'Harvard a un budget qui dépasse le PIB d'un petit pays. Certes, les subventions ne pèsent que 11% de son budget et sa fondation est riche de 50 milliards de dollars, nuance les échos, mais cet argent n'est pas très liquide. Le président d'Harvard n'a donc pas autant de latitude qu'il y paraît.
Ce président avait pourtant tenté de montrer patte blanche, Augustin.
Oui, c'est ce qu'écrivent toujours les échos. Alan Garber, 70 ans, nommé après la démission de Claudine Gay, qui n'avait pas été assez ferme face au dérapage antisémite sur le campus après le 7 octobre 2023. Élevé dans une famille juive, le dirigeant a peu d'affinité avec les manifestants en kéfier qui ont alors campé sur la pelouse d'Harvard. Il a mis en œuvre une nouvelle politique de neutralité alors que jusqu'ici l'université prenait des positions politiques et il a renoncé à la discrimination positive. Sans réussir donc toutefois à faire plier Donald Trump.
La situation peut donc évoluer dans les prochains jours, mais Harvard est d'ores et déjà devenu un symbole.
Finalement, ce n'est ni le Parlement, ni la justice, ni la presse Le premier contre-pouvoir qui défie frontalement Donald Trump est une université, écrit Jean-Marc Vittori dans son éditorial des Échos. Suite dans l'article en page 7. Qu'il le veuille ou non, le président du prestigieux établissement devient l'emblème de la résistance à la révolution culturelle trumpiste au moment où de nombreuses institutions préfèrent pactiser plutôt que de se voir couper les vivres, médias, universités, cabinets d'avocats. Le Parisien aujourd'hui en France rappelle que tout le monde, ou presque, avait jusque-là cédé jusqu'à l'université de Columbia à New York, qui pour sauver 400 millions de dollars de financement a accepté la mise sous tutelle académique du département des études du Moyen-Orient. Un exemple qui montre qu'accepter les demandes de l'administration ne suffit pas pour acheter la paix. Les 400 millions n'ont toujours pas été versés et le gouvernement réfléchirait à imposer à Columbia une surveillance générale. À Harvard, cela pourrait se terminer par une décision de justice.
La justice que Trump contourne dans les affaires de délinquance en col blanc.
Long article dans l'Opinion, traduit du Wall Street Journal. Il décrit comment la nouvelle administration abandonne les poursuites contre certains responsables d'entreprises accusés de corruption ou d'escroquerie. Ces poursuites nuiraient à la compétitivité des entreprises américaines. Quelques principes se dégagent dans la décision ou non d'intenter un procès. Il n'est plus question de poursuivre ceux qui ont commis des actes répréhensibles s'il n'y a pas de victime évidente. Le département de justice se dit ouvert aux arguments d'un défendeur s'il se dit ciblé pour des raisons politiques. Enfin, le fait de disposer de connexions au sein du monde de Trump semble avoir de l'importance. Tiens. Suit une liste qui prend presque une page entière, avec par exemple le fondateur du constructeur automobile Nicolas, reconnu coupable d'escroquerie, gracié par Donald Trump. Le secteur des crypto-monnaies est lui aussi particulièrement concerné. Bref, aujourd'hui, aux États-Unis, il vaut mieux être un escroc qu'un professeur d'université.
Augustin, cette nouvelle Amérique que vous venez de décrire semble rebuter les touristes français.
Oui, le Parisien a interrogé des professionnels du secteur qui donnent des indicateurs sur ce phénomène. Baisse à deux chiffres des réservations chez les tours opérateurs, jusqu'à 25% pour certaines destinations et certains secteurs. Tous les secteurs sont touchés, que ce soit les jeunes, les groupes, le moyen ou le haut de gamme. Au-delà du rejet idéologique, d'autres facteurs entrent en jeu, comme l'inflation marquée qui touche le pays, l'instabilité économique et commerciale croissante. Ce climat global contribue à rendre la destination moins attractive. Les compagnies aériennes ont pourtant baissé les prix des vols qui avaient beaucoup augmenté après la crise sanitaire, sans convaincre les Français de traverser l'Atlantique. Un quart de demande en moins pour New York ou Los Angeles, parmi les villes les plus populaires du pays.
Vous nous proposez une autre destination de vacances pour terminer.
Oui, pas loin des côtes canadiennes et toujours de l'autre côté de l'Atlantique, Saint-Pierre et Miquelon. Le petit archipel français a décidé de réagir après deux séquences négatives pour son image. Les droits de douane sur ses importations fixés à 50% par Donald Trump avant qu'il ne change d'avis et la proposition controversée de Laurent Wauquiez en campagne pour la présidence des Républicains d'y expédier les OQTF, les étrangers ayant une obligation de quitter le territoire français. La collectivité a lancé hier une campagne de communication relayée par plusieurs médias dont Ouest France. Un constat lyrique pour vanter un rythme de vie apaisé. Envoyer quelqu'un ici pour le punir, c'est comme exiler un peintre dans la lumière, un poète dans le silence, un amoureux dans la beauté. Un slogan, Saint-Pierre et Miquelon, 146 jours de pluie, 365 jours de bonheur, et un acronyme détourné, OQTF devient « on quitte tout facilement », on vient en quête de tranquillité familiale ou encore ouvrier qualifié pour travailler dans le froid ou comment retourner le stigmate avec humour et ironie. Et c'est là-dessus que s'achève mon observation quotidienne des titres français.
On quitte tout facilement, on vient en quête de tranquillité familiale. Voilà quelques slogans inspirants pour cette revue de presse. Merci beaucoup Augustin Lefebvre.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Esprit libre à 8h41 avec nous ce matin l'éditorialiste Routel Krief et l'académicien Marc Lambron.
Bonjour
à tous les deux.
Bonjour Marc.
Alors on va commencer évidemment par cette prise de parole du Premier ministre François Bayrou hier, le risque d'une surenchère, d'un surendettement irréversible, une France qui n'a pas assez de ressources, qui ne produit pas assez. Pas d'annonce mais un slogan, la vérité permet d'agir. Est-ce que l'exercice était réussi, Routel?
Vous savez, les journalistes ont l'habitude de se plaindre quand il n'y a pas assez de pédagogie. démagogie et ils se plaignent tout autant lorsqu'ils considèrent que ça ne va pas assez vite. À un moment, il faut regarder les choses en face. Ce qu'a fait François Bayrou hier, c'était un exercice de pédagogie qui visait, j'ai envie de dire, à passer au-dessus des partis, des syndicats, des forces un peu de résistance au changement, et à s'adresser directement à l'opinion publique. Et il a pris la méthode, vous savez, les tableaux Covid d'Édouard Philippe, très pédagogique, mais il n'a pas mâché ses mots. On a eu quand même, la France ne travaille pas assez, elle ne produit pas assez, mais aussi quelques motifs d'espoir. Nous fabriquons des avions, des satellites, des fusées, des trains, et donc nous pouvons nous relever. Moi, je crois que c'était utile, je crois que c'était intéressant, et je crois que ça n'a jamais été aussi clair. D'ailleurs, je trouve que c'est un petit tacle aussi à Emmanuel Macron, c'est une forme de critique déguisée, même s'il l'a démenti. Non, mais je veux dire, de façon subliminale, il a dit non, c'est les 30 ans qui viennent de passer. Enfin, il y a aussi les dernières années dans lesquelles tous les témoignages concordent pour dire que le président, sur le déficit et la dette, était plus léger et a toujours parié plus sur la croissance que sur les économies. Et donc là, il y a eu une forme d'appel à l'opinion publique sur une question clé. Et moi, je trouvais que c'était plutôt réussi, oui.
Marc Lambron.
Il y a toujours un certain courage politique et beaucoup à perdre à venir sur le sujet. J'ai eu une conversation avec Valéry Giscard d'Estaing qui n'était pas loin d'imputer une partie de son échec en 80 un discours sur la vérité des comptes qu'avait tenu Raymond Barre 5 mois avant. Et le thème, il n'est pas forcément fréquent. Fillon avait parlé d'un État en faillite, Madame Pécresse, on cramait la caisse. Mais là, ce qui émergeait hier, c'est que c'est une parole d'État. Et au fond, s'il y avait une pédagogie de la faillite, et le côté démocratien, c'est-à-dire l'inclusion des corps intermédiaires et des citoyens dans un effort collectif. Alors, la comédie française continue, parce que à peine la chose achevée, un syndicaliste revenait sur la retraite à 62 ans, puis à 60 ans, et appelait à défiler le 1er mai. Toujours avec cette sorte d'inconséquence, je ouvre une parenthèse pour dire que va paraître un livre que j'attends avec intérêt, au seuil, au mois de mai, de Lucie Castet, Où sont passés nos milliards ? Ce qui est pas mal quand on a été soi-même à la direction financière de la ville de Paris, dont l'équilibre des comptes n'est pas forcément le plus grand apanage.
Je parlerais plutôt de tragédie française que de comédie française.
Hein. Oui, mais tragicomédie, allons-y, on fait une fusion. Non, dernière chose, c'est que c'est toujours la même chose, ça, en économie, c'est l'effet de cliquet, c'est-à-dire comment revenir sur ce qu'on appelle les avantages acquis, comme s'ils étaient là de toujours et pour toujours. Dernière chose, ce que disait, si j'ai bien entendu, M. Bayrou, c'est pas d'endettement supplémentaire et pas d'impôt supplémentaire, donc ça revenait à mettre, par élimination, la valeur travail qu'il a mise en avant. Les Français ne travaillent pas assez. Donc il y avait une certaine logique déductive et un effet pédagogique dans son propos.
Et comment s'y prendre maintenant, l'échéance, c'est le 14 juillet ? Alors, le plus dur commence ?
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, évidemment, c'est un discours qu'on tient quand on a une majorité, ça n'est pas le cas, et on a les réflexes immédiats qu'a décrit Marc, qu'à la peine à la sortie, tout le monde a ressorti son bréviaire habituel, et de ce côté-là, aucune surprise. Et c'est ce que j'appelle la tragédie française, parce qu'il n'y a pas de prise de conscience, ou en tout cas de volonté de regarder en face la situation. Après, je trouve qu'il faut retenir la leçon de ce qui s'est passé pour Trump. Il y a à peine quelques jours, Trump a fait un changement à 360 degrés en 3 heures parce que sa dette souveraine était vendue sur le marché par les Chinois et les Japonais en quelques heures et il s'est retrouvé devant le mur de la dette et c'est ce qu'il a fait changer. Il a fait une forme de Liz Truss. Alors, a priori, on n'est pas dans ce danger-là, mais enfin, c'est une leçon quand même à méditer.
La dette souveraine est découronnée.
Donc il peut y avoir aussi une réaction, parce qu'aux États-Unis c'est une réaction de la population aussi, des consommateurs, d'inquiétude.
Oui, mais enfin, ce qui l'a fait varier, ce qui l'a fait changer, c'est essentiellement ce mur de la dette que les banquiers et ses amis banquiers lui ont fait tout d'un coup, l'ont agité et lui ont fait comprendre que les taux allaient remonter tellement violemment pour ses remboursements en 2026 peut-être, qu'il allait être vraiment en difficulté.
Ce qui l'intéresse, c'est le mur d'Harvard aussi.
Oui. Le mur d'Harvard, mais la transition est toute trouvée.
Ah bon, bah
merci beaucoup. On part aux États-Unis avec ce bras de fer au sommet entre l'administration de Trump et la plus vieille université du pays, Harvard. Un peu plus de 2 milliards de subventions coupées après le refus de l'université de retirer son programme de diversité, d'équité, d'inclusion. C'est une bataille très symbolique qui a lieu actuellement aux États-Unis.
Oui, alors... on peut tout de même dire qu'il arrive qu'un chef d'État s'en prenne à une institution nationale. Après tout, Macron a supprimé l'ENA. pour la remplacer par l'INSP. Bon, c'est du nominalisme parce que c'est un clone, mais un INSPER, c'est difficile, alors qu'un ENARC, c'était très bon pour le poujadisme. Bon, c'est une affaire aussi de prononciation. Bon, oui, vous avez raison, je crois, de dire qu'il s'agit d'une guerre culturelle interne. Et en l'espèce, Trump entend attaquer les bastions du wokisme au nom de sa base électorale qui l'exècre. Moi, ce que ça m'inspire, c'est le luxe ou la folie d'un État qui s'en prend à ses propres élites. Et à cet égard, il y a eu en Union soviétique, en 1937, des purges, notamment dans le haut état-major, qui, 5 ans plus tard, ont coûté cher, en 1941. Et évidemment, le grand exemple, c'est la révolution culturelle chinoise, les bonnets d'âne sur la tête des professeurs envoyés à la campagne. Autrement dit, je crois que la conclusion, c'est que la tyrannie fait toujours la guerre à l'intelligence critique. Et une dernière chose, c'est que Harvard, c'est un fleuron de réputation mondiale. Donc, il y a une dégradation d'image, il y aura sûrement des effets collatéraux sur la recherche, il y aura des opportunités pour les universités étrangères. Donc, une fois de plus, on constate que Trump conspire à l'abaissement de son pays. Et une dernière chose, c'est que les chercheurs, les enseignants, en général, ils sont passionnés et désintéressés. Et une pire chose qu'on puisse faire, c'est leur manquer de respect, au fond, ou c'est les mépriser. C'est cela aussi qui est en jeu. Mais l'éthique du respect n'est pas dans le programme de Trump.
Alors, j'aurais quelques bémols quand même sur ce que Marc dit, et sur lequel je suis tout à fait d'accord. Évidemment, vouloir imposer un contenu à une prestigieuse université ou à quelle qu'elle soit est un grave péché devant l'intelligence. Mais on a dans les universités américaines quand même des bastions du wokisme avec des fautes. Par exemple, relevées par la Cour suprême contre Harvard, dont la politique de diversité a été sanctionnée parce qu'elle favorisait toujours les mêmes. Donc, il faut regarder aussi d'où on vient. C'est-à-dire qu'on est dans l'exemple type de la tenaille identitaire. C'est-à-dire que c'est à Harvard, comme dans les autres universités américaines, on est allé beaucoup trop loin sur le wokisme et hélas, à certains moments, depuis le 7 octobre, sur l'antisémitisme et la place qui a été donnée à la lutte pour le Hamas, pas pour les Palestiniens, hélas. Et de l'autre côté, on a une vision totalitaire du savoir, de la connaissance et du vocabulaire. Donc c'est très 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 grave. Mais il faut arriver à trouver quelque chose il faut renouer avec une tradition, celle de la culture, de l'instruction et du savoir, et pas seulement d'être un lieu politique, d'enseignement politique, avec des enseignements politiques de part et d'autre. Hein. Donc, après, c'est vrai que Columbia, qui a accepté les règles de Trump est complètement floué. Et donc Harvard devient le symbole de la lutte contre le Trumpisme. Et c'est assez intéressant. Il faut juste observer que ce qui se passe du coup du parti du côté démocrate, c'est plutôt Bernie Sanders et Alexandra Ocasio-Cortez qui tiennent le haut du pavé. Et c'est-à-dire qu'en face des excès incroyables et innommables de Trump, on aura aussi des excès de la gauche du parti démocrate. C'est pas comme ça que les démocrates reviendront au pouvoir.
Mais parce qu'une des grandes victimes de l'époque, en effet, c'est la nuance. J'observe que le problème que Ruth soulève, c'est-à-dire l'excès, si on peut dire, de wokisme, il existe aussi rue Saint-Guillaume, au fond, à Sciences Po Paris. Les drapeaux palestiniens, ils sont agités. Mais le nouveau directeur procède autrement que l'administration Trump. Il y a d'autres approches possibles.
Ça va aussi dans les types d'enseignements, sur le genre, sur d'autres enseignements qui sont allés très très loin, qui n'ont pas à négliger, mais qui sont allés sans doute beaucoup trop loin.
Moi, j'aime bien mon genre.
Mais évidemment, l'offensive Trump contre le savoir et la connaissance est un péché.
Et à une dimension politique. Barack Obama a salué la démarche du président d'Harvard. C'est un réveil démocrate aussi, peut-être. Ça va peut-être venir de là aussi.
Bien sûr, oui. Non, ça va devenir un bastion de la résistance démocrate. Tant mieux. Et tant mieux parce qu'il faut bien commencer à se battre. Mais sur quelle ligne? Il faut que les démocrates réfléchissent bien, parce que si c'est sur une ligne extrême et que si c'est pour défendre ce qui a donné les racines du vote Trump, c'est pas, à mon avis, comme ça qu'ils vont reprendre le pouvoir.
Non, c'est comme le PS en France. Réfléchissons, modérons-nous, ma chère Ruth.
Bien sûr.
Alors, on va aborder un autre sujet, celui des prisons, cette grande interrogation après ces attaques sur 9 établissements pénitentiaires depuis dimanche, des tirs de Kalachnikov, des voitures incendiées, des tags à Toulon, Valence, Nanterre, Villepinte, encore d'autres signalés encore ce matin, exactement. Et une question sans réponse, qui se cache derrière ces attaques visiblement coordonnées, point d'interrogation.
Que ce soit des narcotrafiquants, comme l'affirme Gérald Darmanin, ou que ce soit l'ultra-gauche, comme certains le supposent aussi, avec un sigle et une organisation de défense des prisonniers français. Ce qui est grave, c'est le défi à l'État et le défi à l'autorité. Et donc, l'enquête le dira, le Parti national antiterroriste est saisi, s'est auto-saisi dans les heures qui ont suivi, ce qui est assez grave et assez important.
Et très rapide, oui.
Il faudra voir. Mais en tout cas, c'est un défi à l'État, et ça veut dire qu'on est, alors si c'est les narcotrafiquants qui se sont coordonnés. Alors là, on est vraiment dans quelque chose qui ressemblerait à des cartels sud-américains. Ouais. J'espère que c'est pas complètement ça, mais bon, si c'est ça, c'est extrêmement grave. Si c'est de l'ultra-gauche qui revient, je vous rappelle qu'il y a des milliers de fichiers S d'ultra-gauche dans l'ensemble des fichiers S. Donc, c'est aussi un danger, notamment en prévision du 1er mai. Mais ce qu'il faut, c'est être extrêmement ferme face à ce défi, à ce nouveau défi.
Marc Lambron.
Oui, alors qui est derrière? Bon, il y a l'option Jean-Patrick Manchette, vous savez, les polars des années 70, auquel cas ça regarderait du côté d'une sorte d'action directe, ressuscitée. Et puis il y a l'option Scorsese, c'est-à-dire ces films où on voit les capos mafia qui sont en prison et qui, en préparant des spaghettis, organisent à l'extérieur et continuent à diriger leur gang. Alors on voit bien que c'est la perspective de ces QHS nouvelle formule, enfin le fait d'incarcérer ensemble, notamment les narcotrafiquants, sans possibilité de communication avec l'extérieur, adieu les téléphones portables, qui pourraient évidemment susciter l'ire de ces gangs. Et en même temps, c'est peut-être une étrange façon de baliser à coups de balles de Kalachnikov leur future résidence. Mais il y a d'autres façons d'aménager les prisons. Et le dernier point, c'est que, à mon avis, chaque impact de balle conforte une voix RN dans sa conviction.
Il nous reste quelques minutes, une minute à peine. Vous vouliez évoquer Marc Lambron, Mario Vargas Llosa, qui nous a quittés le week-end dernier, 89 ans, prix Nobel de littérature en 2010, membre de l'Académie française. Vous vouliez rendre hommage aussi à votre confrère, Marc.
Oui, quelques mots pour mon confrère. Il avait été reçu en février 2023. Il est venu y siéger et puis on a appris il y a quelques mois que ses médecins lui interdisaient de traverser l'Atlantique, probablement pour des raisons de santé et faiblesse cardiaque sans doute, ce qui fait qu'il est décédé à Lima. Il n'aura pas revu ni Madrid ni Paris, qui étaient ses deux villes d'élection. Peut-être une chose, c'est que le dernier géant des lettres latino-américaines, comme on le dit, au fond était un écrivain d'inspiration française 19e siècle. C'est-à-dire que ces deux références, il leur a consacré des ouvrages, c'était Flaubert d'abord, Victor Hugo après. Et nonobstant l'intégration de quelques techniques plus modernes, il adorait John Dos Passos, finalement, c'est ce grand roman à la française qu'il a pratiqué tout au long de son œuvre, ça c'est une chose. L'autre chose qui est symptomatique, c'est son évolution politique. C'est-à-dire que vers 1960, quand il est à Paris, c'est un émule de Jean-Paul Sartre. Et puis il est devenu un émule de Raymond Aron. 5 visites à Cuba, notamment, dans les années 60, lui ont fait comprendre, peu à peu, prendre conscience de ce que c'était que le totalitarisme latino-américain de gauche. Et voilà, on commence avec Staline, on finit avec Revel. Et c'était un esprit en même temps libre, dégagé, oui, un tenant du libéralisme, mais par exemple, et pour cette raison, il exécrait Trump.
Très rapidement, route aussi,
j'ai vraiment observé cet itinéraire qui est tout à fait exemplaire, c'est-à-dire c'est un anti-totalitaire, c'est un libéral, un démocrate libéral qui a perdu des élections dans son pays, mais qui est évidemment amoureux des lettres et un très grand écrivain, mais qui a fait un itinéraire assez typique finalement du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il a traversé et observé les totalitarismes et s'en est dégagé et en est devenu un des critiques les plus acerbes. Et de ce point de vue-là, on lui doit beaucoup.
Esprit libre sur Radio Classique, avec nous ce matin l'éditorialiste Routel Krief, l'académicien Marc Lambron. Merci à tous les deux et très bonne fin de semaine.
Radio Classique, Vous écoutiez une rediffusion de la matinale d'hier.
Vous êtes bien avec Radio Classique.
Bonjour à tous.
Nous allons donc à la recherche de cette mythique escadrille américaine des tigres volants.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
En 1941, ça fait 5 ans que l'armée impériale du Japon étend sa mainmise sur un certain nombre de territoires chinois. On est dans la Chine du nationaliste Jiang Jiechi, qu'on appelait autrefois Chiang Kai-shek. Les villes chinoises sont tombées les unes après les autres. Le Japon s'apprête à attaquer l'Indochine française, la Birmanie britannique. On a l'impression que rien ne pourra arrêter les soldats d'Hirohito, avec des massacres de civils chinois qui se font de plus en plus nombreux et qui sont atroces. Les nations occidentales observent tout ça avec inquiétude, évidemment, mais on ne peut pas dire que le soutien aux Chinois soit très efficace. L'URSS a bien tenté de contribuer un peu à l'effort de guerre, mais la situation qui est devenue inflammable sur le front de l'Ouest, on est en pleine guerre contre l'Allemagne d'Hitler, bien entendu, tout ça va calmer les ardeurs russes, d'autant plus qu'il y a ce pacte de neutralité nippo-soviétique qui est signé le 13 avril 1941. Donc c'est plutôt par les États-Unis que passe l'aide occidentale, une aide un peu confidentielle, il faut bien le dire. En 1937, un général de l'armée de l'air américaine qui s'appelle Claire Lee Cheno, un personnage assez extraordinaire, il a quitté le service actif et il va proposer au gouvernement de la République de Chine, il va proposer à Jiang Jiechi son aide. Et en juin, il devient donc le conseiller pour l'aviation chinoise. Cette armée de l'air chinoise, c'est pas grand-chose, elle est un peu embryonnaire, hein, tout est à faire. Seulement, Jiang Jiechi a compris l'importance de se doter d'une force de frappe. En 1940, et on voit bien que la mission est extrêmement complexe. Cheno, à ce moment-là, va demander l'aide du gouvernement américain. Seulement, les États-Unis sont neutres dans tous les conflits en cours, y compris celui-ci. Bon, le président Roosevelt, néanmoins, vous savez, a plusieurs attitudes à la fois. Il comprend l'intérêt qu'il y a à soutenir cette Chine complètement débordée par un Japon qui devient inquiétant pour les États-Unis eux-mêmes. Et Roosevelt va passer outre à la neutralité et autoriser, mais comme ça, verbalement, sans laisser de traces écrites, bien entendu, autoriser l'envoi d'avions de chasse américains en Chine.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Grande discrétion autour de tout ça, bien sûr, c'est par l'entremise d'une société militaire privée, la Central Aircraft Manufacturing Company, qui a été créée exprès, que Claire Lee Cheno a réussi à recruter des techniciens, des pilotes, des volontaires qui vont venir prêter main forte aux Chinois. Ce sont des mercenaires, si vous voulez, hein, contre les Japonais, bien entendu. L'opération prend de l'ampleur avec un côté un peu officiel, c'est la loi Lend-Lease qui est adoptée le 11 mars 41 qui autorise le président des États-Unis à vendre ou à céder du matériel à l'endroit d'un pays dont la défense est jugée vitale pour les intérêts américains. Ça permet d'avoir une attitude assez souple d'une certaine façon. Et donc, à la fin de l'été 41, une escadrille américaine clandestine va prendre racine en Chine. C'est le premier groupe de volontaires américains, c'est son nom pour l'instant, avec une base à Kunming, dans la province du Yunnan. On est tout à fait au sud de la Chine, hein. Vous voyez le Yunnan, région montagneuse très méridionale. Cette escadrille a pour but d'impressionner l'aviation japonaise. Elle va prendre le nom, histoire de se rendre encore plus impressionnante, le nom de Flying Tigers, les tigres volant, groupe de chasse qui va devenir mythique. Les tigres sont censés faire la chasse aux rats, pas besoin de vous expliquer qui sont les rats. C'est cette épopée que nous allons essayer de revivre à travers notamment la carrière d'un des as des tigres volants, l'américain Robert Lee Scott.
Le 7 décembre 41, ben vous savez, ça c'est une date que vous connaissez, hein, c'est l'attaque japonaise contre Pearl Harbor. Ça faisait 4 ans que notre Scott, là, Robert Lee Scott, était pilote instructeur et il juge que tout ça est un petit peu ennuyeux, qu'il serait meilleur instructeur s'il avait lui-même combattu. Et malgré les sollicitations envoyées à tous les quartiers généraux de l'armée de l'air, ben il n'a pas moyen de se rapprocher du combat. Or, il avance en âge, lui. Et voilà que, d'un seul coup, on l'appelle de Washington. C'est un colonel qui est au bout du fil qui lui dit « Avez-vous déjà piloté un quadrimoteur ?» Et Scott répond « Oui, monsieur. » En réalité, il n'a jamais piloté de quadrimoteur, mais il n'est pas question de dire non dans ce genre de circonstances, bien entendu. Il avait embarqué sur un de ses appareils, mais enfin bon, peu importe. Il n'a pas l'intention de laisser filer l'occasion. Le colonel, c'est Caleb Haynes, c'est le technicien de l'aviation militaire qui a voué la plus grande partie de sa vie à faire du quadrimoteur une véritable arme. Ce sont les fameuses forteresses volantes, vous savez, les B-17. Et donc, Scott va être sélectionné pour former un corps d'élite et convoyer des bombardiers jusqu'en Chine afin d'aller frapper des cibles au cœur du Japon. Et oui, ça c'est tout le changement qui est intervenu à l'occasion de Pearl Harbor. Eh bien, pour Scott, c'est le moyen de réaliser un rêve sur son B-17, dont il apprend à piloter tous les aspects. Il en connaît bientôt les ficelles. Il va faire inscrire en latin une inscription qui dit « L'enfer tombant du ciel ». Et les intentions de Scott et des 8 hommes d'équipage qui sont avec lui sont des intentions tout à fait claires. Il s'agit d'aller frapper, d'aller faire du mal à cet empire nippon qui a tenté de mettre l'Amérique KO. Alors d'abord, ça veut dire qu'il faut franchir l'Atlantique, l'Afrique, le Moyen-Orient, avant d'atteindre Karachi, qui à l'époque est encore dans les Indes britanniques. En arrivant à Karachi, c'est un long voyage quand même qu'a fait Scott avec tous ses hommes. Il est assommé par une nouvelle. Le colonel Haynes lui annonce que la mission est terminée. Mais qu'est-ce qui se passe? Le 18 avril, quelques pilotes qui sont commandés par le colonel Doolittle ont opéré un raid héroïque au cœur même de Tokyo, ce qui veut dire que les objectifs de l'état-major américain maintenant ont changé, qu'on n'a plus l'intention d'aller frapper le Japon sur ses terres. Mais vous imaginez, pour tous ces hommes qui étaient engagés, qui avaient l'intention d'aller là-bas, qui croyaient à la mission de leur vie, ah non, là, ils sont complètement démoralisés. Vous avez reconnu Mars qui nous apporte la guerre, une des planètes la plus célèbre sans doute de Holst. L'orchestre symphonique de Chicago était sous la direction de James Levine.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors bon, il n'y a plus la mission sur le Japon, là, ça a été annulé, mais il y a une autre mission qui pourrait être menée, c'est par notre Scott, c'est d'aller ravitailler l'armée chinoise, notamment le groupe du général Chenno, donc, qui se trouve en Birmanie, où les Japonais sont en train d'avancer, hein, dans cette Birmanie britannique. Bref, pour Scott, c'est une occasion qu'il ne faut pas manquer, et ça va être son premier contact avec les tigres volants. Avec le colonel Haynes, il doit aménager de nouveaux terrains d'aviation. Il s'agit bien sûr d'élargir le champ d'action du corps aérien. Il est décidé à demander au général Chenno son affectation dans l'escadrille. Cette escadrille qu'on reconnaît facilement avec ses gueules de requins qui ont été peintes sur le nez des appareils. Ces appareils, les tigres, les requins, enfin, vous voyez un peu de tout le bestiaire qui a été mobilisé. Le général est assez bluffé, disons-le, par la ténacité de Scott, et il finit par lui confier un de ses P-40, ce qui veut dire que Scott a enfin son chasseur, il est tout content. À ses yeux, c'est de la dynamique, hein, cet avion. Il est ébloui par les lignes gracieuses, par le fuselage de ce P-40, qui est une sorte de pur sang des airs, si vous voulez. Scott n'a pas encore rejoint les tigres volants officiellement à ce moment-là. Depuis le nord-est de l'Inde, il est le seul à piloter un avion de chasse et auprès du général Chenno, il a convenu qu'il allait pouvoir, comme ça, aller harceler les Japonais en Birmanie avec son malheureux P-40 tout seul. Hein. Le P-40 en question, il l'a baptisé l'Exterminateur, tout un programme. Mai 42, Scott entre dans le plus beau mois de sa vie puisqu'il va réaliser tous les jours des sorties avec attaques en piqué sur les installations japonaises en Birmanie centrale, sur des blindés, sur des bombardiers au sol, des péniches, des colonnes d'infanterie. Il fait repeindre plusieurs fois par jour, dans des couleurs différentes, la casserole d'hélice de son appareil pour faire croire aux Japonais qu'ils ont affaire à toute une escadrille. Parce que comme ils ne sont pas de la même couleur, tous ces avions, on a l'impression que ce sont des avions différents. C'est toujours le même P-40, bien sûr. Il y a d'ailleurs un correspondant de guerre qui, en apprenant ce fait d'armes de Scott, l'a surnommé l'homme escadrille. C'est un peu l'homme orchestre de l'aviation de chasse. Et Scott, qui est toujours plus audacieux, demande à ce qu'on accroche sous son fuselage des bombes qui pourraient permettre de causer plus de dégâts encore aux Japonais. Et il revient de ses raids très audacieux, avec parfois le fuselage perforé comme une passoire, parce qu'inutile de vous dire que les Japonais au sol ne se laissent pas faire. Il a un regret, c'est de ne pas encore s'être frotté aux Japonais dans un combat aérien. Et bien voilà que les choses se font. On est à l'été 42, ça fait pas très longtemps, ça fait 7 mois qu'il est dans le combat aérien, Scott. Hein. L'escadrille des tigres volants est dissoute au sein du 23e groupe de chasse de la China Air Task Force, qui est commandé toujours par Chenno. Et désormais pour les États-Unis, il s'agit d'aller prendre le contrôle des opérations en Asie pour lutter contre cette espèce d'expansion japonaise. Les Japonais sont maintenant directement les ennemis de l'Amérique, de Roosevelt, bien sûr. Hein. Donc on va s'appuyer sur l'expertise des tigres volants. Ils ont quand même 50 avions japonais à leur tableau de chasse, hein, qu'ils ont réussi à liquider dans la région de Rangoon, en Birmanie. Les emblèmes, la gueule de requin, tout ça est conservé dans la nouvelle escadrille. Et le 31 juillet 42, Scott pilote donc au milieu des tigres volants. Ça y est, cette fois, il a intégré la nouvelle escadrille. Et à l'aube, il se trouve en vol au-dessus des hautes montagnes dans la région de Guilin, une des places fortes de la résistance chinoise face à l'oppresseur japonais. Il y a un bombardier que Scott aperçoit au loin, hein, c'est un bombardier japonais qui est en train de lui foncer dessus. Au dernier moment, il se rend compte que le bombardier en question est escorté par 2 chasseurs. Le général Chenno lui avait donné un conseil, il lui avait dit « Il ne faut jamais attaquer seul un bombardier protégé par la chasse. » Seulement là, qu'est-ce que vous voulez faire ? La petite escadrille se rapproche beaucoup trop vite. C'est un combat tournoyant qui est en train de se lancer dans le ciel. Les chasseurs ennemis sont les redoutables zéro. Scott leur mène la vie dure. Il faut imaginer les acrobaties en plein vol. Il réussit à faire rugir ces mitrailleuses qui crachent plus de 100 balles à la seconde. Et puis, maintenant, il s'en prend donc aux deux chasseurs qu'il arrive à endommager avant de se rendre compte qu'il n'a plus d'essence, qu'il doit repartir en toute hâte vers sa base, en essayant de se cacher le plus possible dans les nuages, parce qu'il y a toujours les chasseurs ennemis qui sont là maintenant à ses trousses. Et plus tard, il apprendra que les deux pilotes de ces héros japonais se sont fait harakiri, parce qu'ils ont perdu la face en laissant le bombardier qu'ils escortaient se faire abattre. Finalement, Scott est en train de devenir ce qu'on doit pouvoir appeler un as de l'aviation. Depuis 5 mois, il a mis à rude épreuve son exterminateur, qui est perforé de partout, je vous l'ai dit, qui a été rafistolé comme on a pu. 200 impacts sur la carlingue quand même. Ça devient difficile de continuer à voler avec un zing pareil. Le voilà donc contraint de changer d'appareil. Il a un nouveau P-40 flambant neuf. Les mitrailleuses sont en bon état. Scott refuse de changer celles qu'il avait sur l'autre appareil. Il les installe donc sur le nouvel avion. À ses yeux, c'est un petit peu ce qui lui porte chance. Ça devient presque son... Il y a quelque chose de l'ordre de la superstition là-dedans. Beaucoup des pièces de l'exterminateur, d'ailleurs, vont être utilisées pour équiper quelques 18 autres P-40 qui étaient en réparation. Il a l'impression, Scott, en voyant toutes ces pièces reprendre du service à bord d'autres avions, il a l'impression que son avion fétiche, son exterminateur, est en train, d'une certaine manière, de se réincarner. Le scherzo de la symphonie numéro 8 de Ralph Vaughan Williams par l'Orchestre symphonique de Londres sous la direction d'André Prévin.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il a maintenant 10 bombardiers avec lui. Scott, on est à la fin du mois de septembre 42. Le chef d'état-major du général Chenault, qui s'appelle Cooper, signale à Scott que les Japonais sont en train de concentrer des forces du côté de Hong Kong. Et l'objectif, c'est donc d'aller cibler le port Victoria d'Hong Kong pour détruire le maximum d'installations japonaises. On prépare donc un raid. Tout ça se fait, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, dans le plus grand secret, bien sûr. Et dans la matinée du 25 octobre, ordre est donné de décoller. 7 appareils de chasse vont donc escorter 10 bombardiers. Ça fait un an qu'Hong Kong est aux mains des Japonais et Scott rêve d'être faire partie des tout premiers à voir une bombe alliée tomber sur cette colonie britannique maintenant devenue japonaise. Et en se rapprochant de l'objectif, il voit qu'il y a de l'agitation au sol, hein. Une nuée de zéros s'apprête en effet à décoller pour aller intercepter ce raid américain, ces 10 bombardiers américains. Vous imaginez, nuée de zéros dans le ciel, l'opération se corse là, et d'autant plus qu'il y a la défense contre aviation japonaise qui est en train de piquer le ciel de petits nuages blancs et noirs. Et il faut arriver à échapper à tous ces tirs d'artillerie, passer entre les gouttes, si je puis dire, en l'occurrence entre les obus. Les bombardiers se mettent à larguer leur chapelet de bombes sur l'objectif. Inutile de vous dire que ça fait une fumée extraordinaire. Tous les quais du port de Hong Kong sont en feu. La mission a l'air d'être un énorme succès, sauf qu'il faut réagir parce que maintenant, il y a tous ces chasseurs japonais dans le ciel. Les tigres volants les ont vus venir, on continue à les appeler comme ça, même si l'escadrille officiellement, vous l'avez compris, a été dissoute. Les pilotes américains sont prêts à sauter sur les avions japonais. C'est du combat qu'on pourrait qualifier quasiment de corps à corps, même si on est dans les airs, bien sûr. Et Scott, avec ses frères d'armes, se révèle encore plus méchant, si je puis dire, que les Japonais. Jour de gloire pour les tigres volants, puisque les Alliés n'auront perdu dans cette opération qu'un seul bombardier et un seul chasseur, alors que côté ennemi, côté japonais, on compte 27 chasseurs abattus. Les Américains, le même jour, vont procéder à deux autres bombardements qui sont eux aussi très bien maîtrisés. Les tigres volants ont un principe absolu, l'attaque, rien que l'attaque, ne jamais être sur la défensive, descendre l'ennemi avant qu'il puisse vous descendre. Ce sont des combattants absolus, ces tigres volants. Et le premier, le plus gros de leurs bombardements, va intervenir un mois plus tard, le 27 novembre. Les Américains, depuis plusieurs semaines, ont fait croire qu'ils allaient prendre à nouveau Hong Kong. Les Japonais ont donc multiplié les patrouilles dans le ciel de l'ancienne colonie britannique, sauf que ce jour-là, ce sont 14 bombardiers accompagnés de 22 Curtiss P-40 aux gueules de requin, donc, qui vont se jeter non pas du tout sur le port de Hong Kong, mais sur celui de Canton, où l'ennemi ne les attendait pas du tout. Là, il y a des gros navires qui transportent des avions de chasse japonais. Ils vont tous être coulés. C'est une sorte de Pearl Harbor à l'envers, si on peut dire, avec un énorme succès, puisque 45 avions de chasse japonais parmi ceux qui ont attaqué. Sur les 45, 29 vont être abattus. Et les tigres volants enchaînent à ce moment-là les succès. On a l'impression qu'ils sont devenus invincibles.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il faut savoir que les Américains et les Chinois, à ce moment-là, ont mis en place tout un vaste réseau d'écoute qui leur permet de prévenir les attaques japonaises. Les raids des bombardiers Mitsubishi sont systématiquement bloqués par les P-40. Et certaines pertes, évidemment, sont à déplorer du côté américain, mais ce sont des pertes rares qu'on compte sur les doigts des deux mains. Ces succès, il faut le dire, ne vont pas pour autant changer le cours de la guerre, puisqu'à la fin de l'année 42, et malgré tous ces coups portés aux Japonais, inutile de vous dire que l'Empire nippon demeure maître des ressources chinoises. Depuis 6 ans, les villes chinoises sont bombardées inlassablement par les forces japonaises. Le peuple chinois a souffert, mais c'est un des aspects de la Seconde Guerre mondiale dont on ne parle jamais, mais qui a été extrêmement important. Les tigres volants sont devenus un symbole, c'est un peu les étoile qui protège ce qu'on peut protéger, ce qui reste, si je puis dire. Alors, où en est-il notre Robert Lee Scott ? Il est devenu colonel, il a remarqué qu'un groupe de Chinois entourant son appareil orné de 12 drapeaux japonais illustrant les victoires, ce groupe de Chinois se révèle mal habillé, ils sont dans des tenues misérables, et parmi eux, il y a des enfants qui ont l'air affamés, des coulis, des rizières qui semblent assommés de fatigue, et il observe que tous ont le sourire. Et oui, ils ont le sourire parce qu'ils voient Scott qui est devenu un véritable héros sur place. On n'imagine pas ce que ces Flying Tigers sont devenus aux yeux du peuple chinois à l'époque. On se met au garde-à-vous, on crie à la façon américaine « Ding Hao », ce qui veut dire « numéro 1 » en chinois. Et on montre du doigt tous les drapeaux qui ont été peints sur l'avion qui manifeste autant de victoires, bien entendu. On peut le dire, Scott est devenu ce qu'il rêvait de devenir un jour. Il est l'as américain par excellence. Il est devenu un héros incroyable. Et il dira que c'est pour lui une récompense extraordinaire que cette popularité qu'il a dans ce petit peuple chinois qui, malgré les souffrances, littéralement éclate de rire à chaque fois qu'il le voit arriver avec son avion mythique. L'issue du conflit, vous savez bien qu'elle va se jouer ailleurs et autrement maintenant, dans l'océan Pacifique bien sûr, dans les îles du Pacifique. Ça n'enlève rien aux tigres volants qui auront abattu près de 300 avions ennemis en moins d'un an. On a du mal à se faire une idée de ce qu'a été quand même le succès phénoménal de cette escadrille invincible qui, avec sa volonté de se battre, qui, avec cette espèce d'attitude hyper-offensive sur tous les fronts, a obtenu autant de victoires. 300 avions japonais descendus en moins d'un an. Tout ça a rallumé en Chine la lueur de l'espoir. On commence à entrevoir une porte de sortie honorable au conflit. Bon, la Chine ne peut pas se douter à ce moment-là qu'elle est à la veille de bien d'autres soucis et de bien d'autres bouleversements, mais cela auront lieu après la fin de la guerre.
Vous écoutez Radio Classique. Radio Classique.
Thank you.
Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la matinale de l'économie. Nous sommes le 17 avril, conséquence de la guerre commerciale avec les États-Unis. L'Organisation mondiale du commerce prévoit désormais un ralentissement du commerce mondial pour cette année, moins 0,2% dans le meilleur des cas, et jusqu'à 1,5% de baisse en cas de riposte généralisée, notamment de la part de l'Europe et des pays asiatiques. Nous y reviendrons bien sûr en détail dans nos différentes éditions. Au programme également ce matin, les banques centrales. À 6h20, Natacha Valla nous parlera de leur rôle dans la transition écologique. Ce n'est pas leur priorité, mais cela évidemment peut avoir un impact sur la stabilité monétaire. Et puis à 6h50, dans le chiffre du jour, nous parlerons de la nouvelle baisse de taux de 25 points de base qui est attendue en Europe. La BCE se prononcera en début d'après-midi. Dans un instant, le premier journal de ce jeudi, mais d'abord un coup d'œil à la météo. Avec Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Trois départements sont en alerte orange ce matin.
Les deux départements corses en alerte pluie-inondation et en Savoie, c'est une alerte orange aux avalanches. De forts cumuls de neige sont attendus à la frontière italienne. Plus globalement, de la pluie sur la moitié est du pays.